une question plutôt abstraite ce matin. Comment naît une idée? D'où vient-elle? Comment émerge-t-elle dans un cerveau traversé par des millions de connexions neuronales? La naissance du savoir, c'est le titre de votre livre, Nicolas Martin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez animé La méthode scientifique, une émission sur France Culture pendant 6 ans, dans laquelle vous avez reçu de nombreux scientifiques. Alors ce livre, c'est un recueil d'entretiens avec 17 personnalités de ce monde-là. Il y a de tout, hein. Physique quantique, cosmologie, biologie, primatologie. L'idée derrière ce livre, c'était donc de questionner la naissance des idées, du savoir. Finalement, vous vouliez savoir comment pensent les scientifiques, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai reçu plus de 2000 scientifiques au cours de mon émission, et avec toujours cette question de se dire, mais est-ce qu'il y a un ticket d'entrée? Est-ce qu'il faut un cerveau particulier? Est-ce qu'il faut être particulièrement brillant? Ou est-ce que possible pour tout un chacun, finalement? Est-ce que ces scientifiques-là sont, je le dis avec un peu d'humour, des êtres humains comme vous et moi? Et du coup, j'ai pris 17 chercheuses et chercheurs dans 17 disciplines pour essayer de comprendre si, par ailleurs, un mathématicien pense comme une généticienne, s'il y a une sorte d'esprit scientifique universel. Et ce qui est très rassurant, c'est que, en fait, les scientifiques sont des gens et des êtres humains absolument comme vous et moi. Avec leurs doutes, avec leurs failles, avec leurs angoisses, avec leurs inquiétudes, avec beaucoup d'humilité aussi. Par exemple, je pense à Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique, et qui me dit, quand le téléphone a sonné, qu'on m'a dit, Alain, tu as le prix Nobel, mon premier réflexe, c'était de me dire, non mais ils ont dû se tromper, c'est une erreur. Et voilà, et donc c'était une plongée assez inédite en fait pour comprendre finalement comment, de la vocation, du début, pourquoi est-ce qu'on se lance dans une carrière scientifique, comment on choisit sa matière, comment on va... filer quoi, un travail tout au long de sa vie, tout au long d'une carrière scientifique, et puis comment il pense quoi.
Et du coup, cette question de l'idée qui émerge, hein, chacune des scientifiques que vous avez abordé et l'aborde à sa manière, est-ce que c'est spontané, façon pop-corn, ou bien au contraire, ça se fait au terme de l'application d'une méthodologie ferme, carrée? Qu'est-ce qui est ressorti finalement de vos entretiens?
Alors, il y a cette question que je pose à chacune et chacun d'entre eux du Eureka, hein, la fameuse idée géniale qui jaillit, etc. Le Eureka, en fait, il existe... Mais il n'est pas magique, hein, il n'y a pas de magie dans la science. Le Eureka, il vient après avoir travaillé, après avoir lu. Et c'est vraiment quelque chose qui revient au cours de ces entretiens. C'est le désir, la volonté de connaître, d'avoir vraiment un socle de lecture très important. C'est Carlo Rovelli, qui est un physicien, théoricien, passionnant, un peu philosophe des sciences, et qui dit... Il faut explorer le mur de la connaissance, c'est un mur. Et puis, à un moment donné, à force de le connaître très très bien, on va trouver la petite anfractuosité dans laquelle on va pouvoir glisser un doigt. Et d'un seul coup, on va repousser un peu et on va apporter un peu plus, un centimètre de plus de connaissance. Mmh. Mais pour ça, il faut d'abord avoir effectivement une grosse connaissance de la littérature et de ce qui se fait dans sa discipline.
Et est-ce qu'il y a des points communs, un fil rouge finalement entre toutes ces personnalités? Est-ce que ce fil rouge ne serait pas finalement une immense curiosité?
Alors, il y a la curiosité. D'une part, il y a Alain Aspect qui disait ça aussi, qui dit que il faut être un peu obsessionnel en fait. Quand on est sur une idée, il faut la travailler. Parfois, c'est des gens qui dorment pas bien souvent, qui ont des problèmes de sommeil. Mais il y a un point commun qui moi me semble très très important de rappeler, c'est que souvent, à l'origine, il y a un enseignant, un prof ou une prof. En primaire, au collège, au lycée, parfois même un peu tard à la fac. Mais on sait que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, c'est des milieux qui sont aujourd'hui un peu maltraités. Et on voit que s'il n'y a pas de prof qui, à un moment donné, voit un potentiel dans un élève, lui tend la main, lui ouvre une porte, et derrière, il n'y a pas de grand scientifique.
Et ça, c'est un très beau message, évidemment, à l'attention de tous les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent. Alors, vous avez aussi demandé à vos interlocuteurs si la recherche était une source d'anxiété ou de sérénité. Et ça, c'est vrai que c'est une question intéressante, hein, parce que pour moi, ça fait écho à cette phrase, plus on sait, plus on sait qu'on ne sait pas. Donc j'aurais tendance à dire que si on est chercheur, on doit plutôt être avoir une petite tendance à l'anxiété. Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, avec l'entretien?
Il y a deux choses. C'est vrai que je vous parlais de ce côté obsessionnel, et quand ils travaillent sur un problème, sur un sujet, parfois ça peut devenir effectivement un peu envahissant, et ils disent que parfois ça les réveille la nuit, ou ils ne peuvent plus arrêter de travailler. Et en même temps, c'est Jean-Jacques Hublin, qui est paléo-anthropologue, qui a permis de repousser de 100 000 ans la date de l'apparition d'Homo sapiens grâce à ses fouilles à Djebel Irhoud au Maroc, donc c'est quelqu'un d'important, et il dit, mais vous pouvez pas imaginer le plaisir, la joie, le bonheur à un moment donné d'être le premier être humain à jamais à découvrir quelque chose de neuf et à repousser les limites de la connaissance. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est quelque chose qui partage toutes et tous, c'est de se dire qu'à un moment donné, il travaille pour augmenter le champ de la connaissance humaine et que ça, c'est une joie, une source de joie.
Oui, des grands moments d'euphorie dans ce travail-là. Une expression qu'on entend souvent, c'est celle de l'esprit scientifique. Hein. Oh, elle a un esprit scientifique. Est-ce qu'il existe finalement cet esprit scientifique avec ce que vous avez pu constater ou bien c'est plutôt finalement un apprentissage, une méthodologie doublée de la fameuse curiosité dont on parlait il y a un instant?
Je ne crois pas qu'il existe d'esprit scientifique universel, comme il n'y a pas une méthode scientifique, mais il y a des esprits scientifiques. Et je m'attendais à voir peut-être une différence dans ces entretiens qui sont vraiment des entretiens inédits que j'ai fait pour ce livre-là, peut-être une différence justement entre les disciplines, par exemple, du vivant ou des disciplines plus théoriques. Il y a certes peut-être un écart entre les théoriciens et les expérimentateurs. C'est-à-dire qu'il y a une façon de réfléchir un peu différente. Par exemple, c'est vrai que les expérimentateurs ou les gens qui vont sur le terrain, je pense à la primatologue Sabrina Krief, en fait, va recueillir des données et de ces données, elle va tirer des enseignements. Donc, elle va faire plutôt un parcours déductif. Alors que les théoriciens vont plutôt partir de l'idée pour ensuite trouver des applications et avoir un parcours inductif. Mais en fait, il y a autant de scientifiques qu'il y a d'êtres humains et qu'ils ont chacun leur singularité. Et ce que je trouve vraiment formidable, et c'est Evelyne Heyer qui est anthropologue généticienne qui le dit, et j'ai envie de l'appliquer au reste des scientifiques. On a souvent cette image des scientifiques un peu isolés, coupés du monde, dans leur tour, oui, dans leur laboratoire. Ben pas du tout en fait, on se rend compte que c'est des êtres humains avec leurs passions, avec leurs doutes, avec leurs émotions, qui nous ressemblent et qui sont finalement très très proches de nous. Evelyne Heyer, qui a parcouru beaucoup le monde à la rencontre de différentes ethnies, elle dit, il y a un point commun, c'est que je trouve que les êtres humains sont sympas. Et en fait, et je trouve ça super, et je trouve que les scientifiques sont sympas, et qu'en ce moment, ça fait du bien de se dire que les êtres humains sont sympas quand même.
Les êtres humains sont sympas, et voici un livre très inspirant. Merci beaucoup Nicolas Martin.